le lien qu'il y a entre le développement durable et les systèmes complexes, et de vous donner des nouveaux outils en essayant de déconstruire les outils qui sont dans vos têtes. Parce que vous avez été alimenté depuis votre jeunesse par une pensée cartésienne qui vous empêche de penser les problèmes complexes. Et c'est ce qu'on va essayer de voir maintenant. Alors, je vais prendre une définition la plus basique du développement durable, il y en a énormément, mais celle qui était dans le rapport Brundtland, qui a été fondateur de ce nouveau concept, en disant, une définition du développement durable, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Deux mots fondamentaux, le concept de besoin. Est-ce que, dans votre vie professionnelle, vous pouvez vous poser la question à quel besoin social et humain répond mon travail? Quel besoin humain et social répond mon travail? Il va falloir se donner comme objectif de répondre à des besoins. Ça veut dire de connaître les besoins de la société, de faire une analyse des problèmes et de se dire comment ma vie peut être mise au service de la résolution de ces problèmes. J'ai fait énormément d'entretiens d'embauche à l'université et j'ai demandé à des étudiants de me faire au moment où on sélectionne les étudiants, de me faire une analyse du monde. C'est formidable comme les étudiants sont au courant de tous les problèmes mondiaux. Je suis absolument étonné. Et puis je leur pose la question, en quoi votre vie professionnelle va répondre à l'un de ces problèmes? Et là, les étudiants me disent, ah non, j'ai jamais pensé en ces termes-là. J'ai pensé en termes de où est-ce que je vais trouver du boulot ou où est-ce que je vais être bien payé. Or, il est absolument essentiel que vous rejoigniez votre analyse du monde et que votre effort professionnel soit consacré à la résolution des problèmes qui vous touchent personnellement. Ça, c'est tout à fait essentiel. Un deuxième détail, j'ai été pendant 6 ans dans les territoires contaminés par la catastrophe de Tchernobyl avec comme objectif, avec comme finalité d'améliorer les conditions de vie dans les territoires contaminés. Nous étions une équipe pluridisciplinaire de 12 personnes et nous avons passé une journée à savoir nos objectifs en allant en Biélorussie au service des personnes, des populations vivant dans les territoires contaminés. Vous savez combien d'objectifs nous avons trouvé? 80. Nous étions tous d'accord sur une finalité, améliorer les conditions de vie dans les territoires contaminés. Mais nous avions 80 sous-objectifs. Ça veut dire que la première des choses à faire quand on a un problème complexe à résoudre, c'est de faire l'inventaire de tous les objectifs, de tous les participants, de toutes les personnes concernées par ce problème. Et on découvre que mon point de vue était un point de vue simpliste. C'était un point de vue simpliste. Moi, j'avais 5 objectifs, dont l'un était exploiter dans ces territoires la méthode patte miroir, une méthode que mon équipe a mis au point, et de voir si elle s'appliquait dans la culture russe. Et évidemment, les autres n'avaient absolument pas cet objectif. Mais il était légitime que moi j'ai cet objectif. Et il était très important que les autres sachent que c'était l'un de mes objectifs en allant dans ces territoires. Et de fait, nous avons mis en œuvre 10 fois la méthode patte miroir, et chaque fois que je le proposais, les gens disaient « Ah oui, oui, on sait que tu nous avais dit que c'était un de tes objectifs, c'est pertinent, on va le faire. » Donc voilà, première chose, les besoins, faire l'inventaire des besoins et transformer ces besoins en objectifs. Deuxième chose, il faut que les solutions que nous mettons en œuvre n'obèrent pas les solutions pour le futur. C'est-à-dire que satisfaire le besoin du présent n'empêche pas de satisfaire les besoins de l'avenir. Et sachez que les décisions dans les entreprises sont prises à court terme pour le court terme. Et qu'on n'a pas le temps, parce qu'il y a une pression pour que l'entreprise puisse vivre, faire des profits, il y a une pression telle que personne ne prend le temps de prendre du recul et de regarder à long terme. Ça, c'est un point capital, et de regarder aux conséquences prévisible à long terme des solutions que nous allons porter aux besoins du présent. Et est-ce que dans ces besoins du présent, nous pouvons tenir compte des besoins du futur? Alors, pour l'entreprise, évidemment, les enjeux sont capitaux. Et je trouve essentiel que les étudiants qui s'engagent dans la filière, dans le mineur développement durable, rentrent dans les entreprises. Il ne s'agit pas que vous soyez tous dans des associations qui s'occupe d'environnement. Il faut que vous rentriez dans les entreprises pour changer la mentalité de ces entreprises et leur faire gérer différemment les décisions d'avenir des entreprises. Pour moi, c'est absolument essentiel. Donc, évidemment, une entreprise, ça a un premier but. Si elle ne fait pas de profit, si elle n'est pas rentable, elle coule. Mais un bateau, c'est bien qu'il flotte. Il faut qu'il flotte, c'est nécessaire, mais ce n'est pas l'objectif que le bateau flotte. L'objectif, c'est où est-ce qu'on va? À quoi sert l'entreprise? Donc, bien sûr, le profit est nécessaire. Il faut que le bateau flotte, que l'entreprise ne coule pas, mais ce n'est pas l'objectif. Donc, il va falloir améliorer ce profit, cette rentabilité, et dans l'esprit du développement durable, eh bien, on va pouvoir y contribuer en faisant des économies d'énergie, en repensant les matières premières. Exemple, Société des Lignes Blanches en France, on achète le calcaire dans des mines de kaolin, c'est-à-dire qu'on détruit l'environnement pour prendre le calcaire des mines de kaolin. Idée, il y a des coquilles d'huîtres qui traînent en Bretagne jusqu'à l'Étanto à Montpellier. Est-ce qu'on pourrait pas utiliser le calcaire de ces coquilles d'huîtres qui détériorent l'environnement? Et la Société des Lignes Blanches a eu le prix de l'éco-innovation il y a 3 ans. En allant collecter les coquilles d'huîtres et en faisant la base de la peinture des lignes blanches en France, et qui sont beaucoup plus réfléchissantes que celles qu'on faisait avec du kaolin. Réduction des déchets, optimisation des processus, réduction des risques. Voilà comment le développement durable peut contribuer au profit et à la rentabilité des entreprises. J'ai assisté il y a 3 ans au retour de 20 entreprises PME-PMI de l'Oise, à qui on avait payé pendant 2 ans un consultant développement durable pour repenser leur organisation. Les chefs d'entreprise ont témoigné en disant, quand on nous a dit qu'on allait rentrer, qu'on nous payait un consultant pour le développement durable, on a beaucoup hésité à accepter. Parce qu'on s'est dit, ça y est, on va rentrer dans des normes, dans des ennuis, ça va être terrible. 2 ans après, nous pouvons dire que nous avons fait des économies d'eau, des économies d'électricité, nous avons renouvelé nos matières premières, nous gérons mieux nos déchets et nous avons motivé notre personnel. Le bilan est totalement positif au niveau de l'entreprise. Or, jamais nous n'aurions payé pour avoir un consultant qui nous aide à faire du développement durable dans notre entreprise. Vous voyez qu'il y a un changement de mentalité chez les chefs d'entreprise, après, et ce n'était pas un, c'était 20 chefs d'entreprise, et les 20 sont venus témoigner de ce changement de mentalité. Des points sur lesquels j'ai particulièrement travaillé, c'est la gestion des risques. Ça fait partie du développement durable. Les problèmes de réputation, de confiance et de légitimité d'une entreprise dans son territoire. Les problèmes de responsabilité, qui ne sont pas seulement suivre les contraintes législatives, mais assurer la responsabilité de l'entreprise dans son territoire et la satisfaction de toutes les parties prenantes. Alors vous allez voir que là, c'est un mot qui est encore trop. Les parties prenantes, c'est quoi? C'est les employés, c'est les clients, c'est les fournisseurs, c'est les actionnaires. Mais vous allez voir qu'il y a un changement dans les parties prenantes. Il va falloir maintenant passer des parties prenantes qui sont directement associé à l'entreprise, aux parties intéressées ou concernées. Et les parties intéressées et concernées, ça ouvre beaucoup plus large que les parties prenantes que je viens de décrire. Les parties prenantes, c'est celles qui font marcher l'entreprise. Mais la ville où est implantée l'entreprise, ça c'est une partie intéressée par la vie de l'entreprise. Les personnes fragiles, les personnes au chômage sont intéressées par la vie d'une entreprise. Les parties prenantes, c'est les générations futures. Les parties intéressées, pardon, c'est les générations futures. Vous voyez qu'il faut changer l'idée de les parties prenantes de l'entreprise et s'ouvrir aux parties concernées. Alors, simplement, je voudrais vous montrer une situation où on va passer d'un jeu à somme nulle à un jeu à somme positive. Nous avons, semble-t-il, une difficulté entre un environnement et une économie. On peut avoir trois situations. Un environnement dégradé dans une économie développée, et nous avons un jeu à somme nulle, c'est-à-dire quand l'économie se développe, elle dégrade l'environnement. Nous pouvons avoir autre chose, on préserve l'environnement, mais l'économie est dégradée. Et là encore, nous avons un somme nulle, où on privilégie l'environnement sur le développement de l'entreprise. On peut avoir une solution tout à fait désagréable, où à la fois l'environnement est dégradé, et l'économie est sous-développée, c'est un jeu à somme négative. Mais on peut imaginer une situation, et c'est ça le développement durable, où l'environnement est préservé et l'économie se développe. C'est tout à fait possible. Et c'est cette situation, moi je dis que quand on parle de débat entre croissance et décroissance, ben faux débat, il faut changer notre mode de croissance. Et il y a des choses qu'il faut faire décroître, toute l'économie matérielle, tout l'usage des matières premières, de l'énergie, on peut simplifier les choses de ce côté-là, mais il faut augmenter toute une économie de l'immatériel, toute une économie des sciences cognitives, toute une économie de l'information, toute une économie de la relation. Et ça, c'est un développement tout à fait important. Alors voilà, quels sont les changements de mentalité qu'impose le développement durable? Le premier changement, vous avez été formé depuis la maternelle à dire que lorsqu'il y a un problème et qu'il est bien posé, il y a une solution unique. Et on vous demande de trouver cette solution unique qu'on vous a appris, qui préexiste. Et ça se traduit dans le domaine de la sécurité que je connais particulièrement bien. Quand il y a un accident, la single cause habit, c'est-à-dire l'habitude de chercher une seule cause à cet accident. Or, un accident est toujours, je dis bien toujours, un ensemble combiné de causes matérielles et de causes organisationnelles. Et s'arrêter à la première cause qu'on trouve explicative, c'est une paresse intellectuelle. Un problème complexe n'a pas de solution préexistante. Vous avez à inventer la solution à un problème qui ne s'est jamais posé et pour lequel il va falloir que vous changiez votre mentalité. Il ne s'agit pas d'aller chercher un expert qui va trouver la solution de ce problème. L'expert n'a pas de solution préexistante. Il va falloir que vous réunissiez tous ceux qui ont des informations et qui sont concernés par le problème pour qu'ensemble, on essaye d'inventer une solution nouvelle. Donc, deuxième changement, c'est passer des parties prenantes à l'idée de parties concernées ou intéressées. Nous venons à Compiègne d'aider la clinique Saint-Côme, qui était au centre-ville et qui s'est décentralisée tout près d'ici, là. Nous l'avons aidée à faire son déménagement. Eh bien, nous avons introduit dans les parties concernées les générations futures. Nous avons pris en compte, bien évidemment, les services médicaux, les services techniques et d'entretien. Nous avons les aspects restauration et tout ça. Et nous avons pris en compte les habitants de Compiègne et les générations futures. Donc, on change l'idée de partie prenante à prendre en compte toutes les parties intéressées ou concernées, impactées par le problème, impactées à court, moyen et long terme. Passer de l'idée de solution optimale qui implique un critère unique à l'idée d'une solution satisfaisante pour un ensemble de critères. Ça, c'est Herbert Simon, prix Nobel d'économie, qui a attiré notre attention sur l'idée suivante. Lorsque on vous a appris depuis la terminale et en université pour les études d'ingénieur, vous avez une fonction f de x. Et qu'est-ce qu'on vous a demandé d'étudier immédiatement? C'est les maximums et les minimums de cette fonction. Alors on vous fait passer une fonction, on vous dit ah, voilà, les points importants et toute la vie de l'ingénieur, c'est de chercher les optimums, maximum ou minimum. Et donc, l'idéal de l'ingénieur, l'idéal type de l'ingénieur, c'est de trouver le maximum d'une fonction. Quand on a un critère qui dépend de deux paramètres, P1 et P2, eh bien, c'est aussi tout à fait possible de trouver ces optimums. On met P1 ici, P2 là, et puis on va faire des courbes de niveau du critère. Ici, le critère, il vaut 5%, ici, le critère, il vaut 2%, et si vous cherchez le minimum, eh bien, il va y avoir une zone où vous allez dire, ben, quand les paramètres P1 sont compris entre P1 min et P1 max, et puis P2 min et P2 max, et puis ici P1 min, et bien là vous avez une situation où votre critère vaut 1%, et c'est les meilleures solutions parce qu'on est quand même, quand on vous fait faire des études d'ingénieur, on vous dit qu'il y a une petite incertitude et qu'on ne va pas trouver le minimum. Donc il est possible, quand une fonction dépend de plusieurs paramètres, et puis je connais P1, PS, de trouver l'optimum le maximum ou le minimum. On est dans un espace à une dimension, mais c'est possible. Quelque chose qu'on ne vous a jamais dit, c'est que quand j'ai deux critères, c'est un de P. Exemple, nombre de pannes par an d'une ligne de production. Et puis un deuxième critère, du même paramètre, coût de fonctionnement de la ligne de production. Donc, un critère. Et tout ça dépendant de l'investissement que l'on va faire dans cette ligne de production. Donc, nombre de pannes par an, et puis coût. En fonction de le paramètre, c'est l'investissement. Alors, je vais avoir un critère, je ne sais pas les formes, mais on va faire quelque chose comme ça. Là, le premier critère, c'est l'un, c'est comme ça, et puis le deuxième critère, là, il va être comme ça. On vous cherche maintenant l'optimum pour les deux critères. On voudrait minimiser le nombre de pannes par an et on voudrait minimiser le coût d'investissement de la ligne. Ça s'appelle une optimisation multicritère. Je connais 100 méthodes d'optimisation multicritère. Et quand en mathématiques vous avez 100 solutions pour un problème, ça veut dire qu'il n'y a pas de solution scientifique. On va vous faire quelle est la solution qu'on propose, la solution générale. Toutes ces 100 méthodes ont une idée commune. C'est qu'on va créer un critère qui soit la somme pondérée de A1 fois le critère 1 plus A2 fois le critère 2. Et nous faisons deux erreurs dramatiques au plan de la logique. Premièrement, nous allons ajouter des nombres de pannes par an à des kilo-euros. Moi, on m'a appris en CP qu'on n'ajoutait pas des navets, des carottes. Et vous, à quel sens que peut avoir un critère qui ajoute des nombres de pannes par an à des kilo-euros? Aucun sens. Première erreur, logique fondamentale. Il n'est pas possible de faire une optimisation multicritère rigoureuse. Deuxième, alors qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? On va faire une simplification illégitime du réel. Et ça, c'est les économistes qui en sont responsables. On va dire combien coûte d'avoir tant de pannes par an. Et on va ramener le problème de la fiabilité de la ligne à un problème économique. Ce qui est une simplification illégitime du réel. Parce qu'une panne, c'est pas ça, pas seulement comme conséquence des coûts, ça a beaucoup d'autres conséquences dans l'entreprise. Donc on va tout projeter sur un espace unique qui est les coûts. Et on va simplifier de façon légitime le réel. Edgar Morin nous dit, tout problème est complexe. Et nous devons toujours simplifier la réalité pour pouvoir vivre, parce qu'on ne peut pas vivre dans un monde très complexe où il faut tenir compte de tout. Il est donc légitime de simplifier un réel complexe. Mais qu'est-ce qui justifie cette simplification? C'est mon objectif. Alors, un exemple pour bien vous faire comprendre. J'ai un trou dans mon mur parce qu'une pierre vient d'éclater à cause du gel. Et je vais dans une carrière de pierre. Je vais regarder la forme de la pierre, peut-être sa couleur, et peut-être éventuellement sa solidité, pour voir si elle va combler le trou de mon mur. C'est-à-dire, j'ai un objectif, réparer mon mur, j'ai trois paramètres importants, et je vais chercher la pierre qui correspond à ces trois paramètres. J'ai fait une simplification du réel, mais je sais pourquoi, c'est parce que je voulais combler le trou de mon mur. Si je veux rentrer dans l'intelligence de la complexité de cette pierre, il faut que je parte, nous dit Edgar Morin, du Big Bang, où je comprenne comment les éléments d'énergie se sont transformés en éléments de matière. Il faut que j'aille dans l'espace pour voir comment les métaux lourds se sont formés. Il faut que je vois comment ils se sont rassemblés dans la Terre. Il faut que je décrive toute l'histoire de cette pierre, par où est-elle passée. Et si je veux comprendre la structure interne des atomes, il faut que j'aille au CERN, où dans une circonférence de 40 km, je lance des électrons contre les noyaux de cette pierre pour savoir comment elle est structurée. Vous voyez qu'une pierre est un élément d'une complexité totale. Qu'est-ce qui légitime ma simplification? C'est quel est mon objectif par rapport à cette pierre? Deuxième erreur, donc première simplification illégitime, je n'ajoute pas des critères différents. Deuxième simplification illégitime, je vais donner une pondération à ces critères. Je vais dire, ben, je vais tenir compte du nombre de balles par an, qui est quand même moins important que le coût, donc je vais dire, ben, je vais prendre 0,08 fois du critère coût, puis 0,2 fois du critère nombre de balles par an. C'est totalement illégitime, totalement subjectif. Pourquoi donner 4 fois plus d'importance au coût qu'au nombre de balles par an? N'est-ce pas aussi important? C'est deux choses qui ne peuvent pas se comparer et qu'on va ajouter et qu'on va, on va dire qu'il y en a une qui est 4 fois plus importante que l'autre. Donc, deux erreurs fondamentales scientifiques lorsque nous faisons de l'optimisation multicritère. Et on vous a appris et on vous a dit que l'idéal de l'ingénieur, c'était d'optimiser. Qu'est-ce que nous dit Herbert Simon? Il nous dit, c'est pas comme ça qu'il faut procéder. Il faut procéder au responsable de la fiabilité de la ligne. Et il faut s'adresser au responsable qui gère l'économie de la ligne. Et il faut que ces deux personnes se rencontrent, qu'elles parlent, qu'elles s'entreprennent leurs préoccupations. Et qu'ensemble, elles déterminent une solution satisfaisante et pour le nombre de pannes par an et pour les coûts. Et on va inventer, par le dialogue, par la coopération, une solution satisfaisante à ce problème, qui ne va pas résulter d'un calcul d'optimisation, mais qui va rencontrer d'une négociation bien faite, où celui qui s'occupe des coûts va apprendre des éléments de qualité, et où celui qui s'occupe de qualité va apprendre des éléments de coûts. Quels sont les critères auxquels est assujetti celui qui gère les finances de la ligne? Le payback pour tout investissement, qu'on lui demande au bout de combien de temps il faut que l'investissement soit remboursé. Il faut que la personne de qualité comprenne le raisonnement du responsable des coûts. Et il faut que le responsable des coûts comprenne le raisonnement du responsable qualité. Parce que quand il y a le choix entre un appareil à 2000 euros et un appareil à 20 000 euros, le responsable va dire « Ah non, je ne peux t'allouer au maximum que 10 000 euros ». Et il faut qu'il comprenne qu'il n'y a pas un investissement au milieu des deux. C'est soit un investissement à 2000 euros, soit un investissement et là, il y a un saut de qualité. C'est non linéaire. Et il faut que le responsable des coûts comprenne la problématique du responsable qualité. Il faut s'entreprendre, il faut vivre dans l'interculturalité, l'interdisciplinarité. Passer de l'idée d'optimisation à l'idée de solution satisfaisante, négociée entre toutes les parties, pas seulement prenante, entre toutes les parties intéressées. Passer de la décision à et pour le court terme, en prenant en compte, qui ne prend en compte que le futur immédiat, à l'introduction du long terme. 10, 20, 30 ans. Comment, dans une décision à court terme, je peux prendre en compte le long terme? C'est une révolution dans le management des entreprises. Et je vais vous en donner un exemple. Nous avons donc, je vous l'ai dit, aidé la clinique Saint-Côme à organiser son déménagement. Et on en a profité pour faire des réorganisations qui soient plus rationnelles, notamment dans la gestion des déchets infectieux, et notamment pour essayer de minimiser les maladies nosocomiales qu'on attrape. Vous savez que 10% des malades hospitalisés ont attrapé leur maladie à l'hôpital. C'est un chiffre hallucinant. C'est un chiffre hallucinant. Donc, quelle était la demande de Thierry Larguier, le responsable technique de la clinique, d'ailleurs ancien UTC, c'était « Aidez-moi à faire la liste des achats que je dois faire pour améliorer la gestion des déchets infectieux dans les nouveaux locaux. Et, si possible, aidez-moi à mieux m'organiser. » Eh bien, nous avons fait cette étude en faisant travailler ensemble des femmes de ménage, des aides-soignantes, des infirmières, des responsables qualité, des responsables techniques, des médecins. Et nous les avons fait travailler ensemble pour trouver des solutions satisfaisantes au problème de la gestion des déchets et de l'organisation. Nous avons donné comme résultat de ce travail la liste des achats de nouveaux poubelles, fûts, containers qui étaient absolument nécessaires. Nous avons répondu à l'exigence de Thierry Larguier qui voulait dans l'immédiat, une solution à ces problèmes. Nous avons décidé de désigner par service un correspondant déchet. Nous avons décidé l'embauche d'un nouveau personnel qui sera responsable de la gestion des déchets dans la clinique et qui aura un correspondant dans chaque service. Donc nous avons réorganisé le service. Mais ce n'est pas tout. Nous avons construit la formation des nouvelles aides-soignantes, des nouvelles femmes de ménage, des nouvelles aides-soignantes et des nouvelles infirmières qui rentrent dans cette clinique pour les sensibiliser à l'aspect de gestion des déchets infectieux et des maladies nosocomiales. Et mieux que ça encore, nous avons trouvé 4 études à long terme que devait faire la clinique pour savoir si l'actuelle gestion était satisfaisante. Je vous donne simplement un exemple. Les femmes de ménage nettoient les salles infectieuses avec des lingettes qui sont bouillies à 90 degrés et qui resservent dans les salles non infectieuses. Quand les médecins ont appris ça, ils ont levé les bras au ciel en disant que c'est pas possible que ça se passe comme ça dans notre... Il y a des spores qui tiennent à 1100 degrés. Les fameuses machins dorés, la staphylocoque dorée, qui tiennent à 1100 degrés. Et on va nettoyer les salles où on sait qu'il y en a, on les boue à 90 degrés et on s'en resserre pour des salles non infectieuses. Et on s'étonne qu'après, en allant pour une appendicite, on ressorte avec un staphylocoque doré. Et les médecins ne savaient pas. Ce sont les femmes de ménage qui leur ont indiqué le processus de leur propre établissement. Vous voyez, cette nécessité de trouver des solutions satisfaisantes en faisant coopérer toutes les parties concernées. Et comment nous avons décidé qu'il y aurait un stage d'un étudiant de génie biologique qui allait faire des cultures dans les boîtes de pétri, des lingettes, des femmes de ménage ayant nettoyé des salles infectieuses pour voir si le lavage à 90 degrés était satisfaisant ou s'il fallait envisager d'autres solutions. Il faut très clairement que dans vos têtes, vous sachiez distinguer les problèmes simples, les problèmes compliqués et les problèmes complexes. Les problèmes que nous rencontrons en entreprise sont des problèmes épineux. Les problèmes épineux, ce sont des enchevêtrements de problèmes simples, compliqués, complexes. Mais il faut comprendre qu'un problème simple, il n'y a besoin d'aucune formation particulière, le bon sens suffit pour le régler. Mais il faut avoir identifié tous les problèmes simples dans un problème épineux. Or, quand on n'a pas identifié un problème simple, on ne lui donne pas de solution, et très rapidement, il devient un problème compliqué, voire un problème complexe. Exemple, j'organise un colloque avec Jean-François Guyonnet sur la communication. Nous sommes à 9h moins le quart au moment d'entrer dans l'ANSI et nous avons oublié de demander la clé de l'ANSI. Nous allons voir le gardien et il est parti faire des courses. Voilà. C'est un problème simple, il suffisait d'y avoir pensé la veille pour aller se coordonner avec le gardien, avoir la clé, mais nous n'y avons pas pensé. Et vous voyez que nous récupérons un problème complexe, qu'est-ce que je fais avec 250 personnes dans la salle en train d'attendre que le gardien soit revenu de faire ses courses, hein. J'ai un problème très... Et puis je suis en tension, je suis énervé, et je ne vais pas pouvoir être assez relax pour accueillir tout le monde et être tout à fait souple et mettre une atmosphère conviviale dans mon... Donc, faire l'inventaire de tous les problèmes simples et les attribuer à quelqu'un. Parce que avec Jean-François, on s'était dit, l'autre a sûrement pensé à la clé. Hein. Il faut attribuer ces problèmes simples à quelqu'un. Mais n'importe qui fait l'affaire. Deuxième chose, les problèmes compliqués, c'est ce pour quoi on vous a formé. Toutes vos études d'ingénieur vous ont formé à résoudre des problèmes compliqués. Ce sont des problèmes difficiles auxquels il existe des solutions qu'il faut. Il faut être formé, il faut être spécialisé pour trouver ces solutions, et c'est l'objet des filières ici à l'UDC. Mais ces solutions, elles préexistent. Rares sont ceux qui les connaissent. Ceux qui les connaissent, ce sont les experts, ce sont les gens formés spécialement pour résoudre ces problèmes compliqués. Et donc, un expert travaillant seul sur un problème compliqué va trouver une solution éprouvée. Elle a déjà été utilisée ailleurs. Voilà. Et la question pour les problèmes compliqués, c'est de bien les identifier. Et la deuxième question, c'est de trouver la bonne personne, celle qui a la compétence pour la résoudre. Et ça, c'est pas facile, parce que quelquefois, on croit savoir, et puis en fait, on n'est pas vraiment l'expert. Les problèmes complexes. Ce sont des problèmes nouveaux qui ne se sont jamais posés. Ce sont des problèmes où ne préexiste pas de solution. Alors oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que dans les problèmes compliqués, il y a des solutions optimales. Il y a des solutions optimales, puisqu'il y a des solutions éprouvées. Je sais que ça marche. Et il n'y a pas 36 solutions. Dans les problèmes compliqués, vous êtes dans l'optimalité. C'est ce qu'on vous a appris à faire dans toutes vos études. Dans les problèmes complexes, Il n'y a pas de solution, c'est un problème nouveau. Il va falloir inventer une solution satisfaisante en réunissant toutes les personnes concernées, toutes les personnes intéressées. Ce qui veut dire qu'un problème complexe nécessite la coopération de tout le monde. Et vous savez, les gens qui sont le plus difficile de faire coopérer, ben ce sont les experts, c'est-à-dire vous. C'est-à-dire les ingénieurs qui croient savoir les solutions des problèmes compliqués. Parce que comment vous fonctionnez quand on vous propose un problème complexe? Vous allez extraire du problème compliqué le problème du problème complexe, le problème compliqué dont vous êtes l'expert. Et puis vous avez raison, parce qu'il y est, ce problème compliqué. Il y est. Il va. Et vous allez appliquer la solution experte que vous connaissez à ce problème compliqué que vous avez extrait du problème complexe. Et vous allez dire, voilà la solution du problème complexe. Eh bien, vous savez que les armoires des dirigeants d'entreprise sont pleines de rapports d'audits proposant des solutions qui n'ont jamais été appliquées. Pourquoi? Parce qu'elles sont totalement inapplicables. On va en voir la raison fondamentale tout de suite après. La raison fondamentale, c'est que... Alors, on va la voir. Donc, les problèmes les plus difficiles, ce sont les problèmes compliqués, complexes, c'est-à-dire ceux où il est nécessaire de faire coopérer les experts. Pourquoi? Parce que les experts veulent résoudre les problèmes seuls. Ils sont persuadés que leur problème est central et que tous les autres problèmes sont... C'est l'intendance qui va suivre. Hein. Et quand on leur dit non, il va falloir que vous compreniez l'expertise d'un autre et qu'ensemble vous inventiez une solution satisfaisante, ça c'est très difficile. Est-ce que c'est clair? Parce que ça c'est capital pour les problèmes de développement durable. Est-ce que vous avez bien saisi la différence des problèmes simples, compliqués, complexes, avec l'étape capitale dans les problèmes épineux, de déterminer quels sont les problèmes simples qui sont à l'œuvre et de déterminer des gens responsables de trouver des solutions à ces problèmes simples, de trouver les problèmes compliqués qui sont à l'œuvre parce qu'il y en a, et il faut les convoquer, mais il faut trouver les bons experts des problèmes compliqués, et les problèmes complexes où il va falloir que les experts coopèrent ensemble pour trouver une solution satisfaisante. Est-ce que ça vous dit quelque chose? Là, je voudrais un petit peu, là, à ce niveau-là, une réaction de votre part, parce que je vous rentre un peu dedans, je vous dis, on vous a mal formé, on vous a formé à être des experts, à trouver des solutions optimales, à être pointu dans votre compétence. Et il le faut, et il le faut. Mais ce n'est pas suffisant pour le développement durable. Alors, une solution très pratique, c'est suivre SI20 qui s'appelle Communication interpersonnelle et coopération durable. Il y a à l'UTC, vous avez une chance extraordinaire d'avoir une UV qui vous apprenne les techniques de coopération. Et la fin de mon exposé, si j'ai le temps, parce que je ne vais jamais avoir le temps, mais nous avons mis au point dans notre équipe une méthode pour apprendre aux experts à coopérer et pour co-construire un programme d'action qui tienne en compte le court terme, le moyen terme et le long terme. Il y a des méthodes, mais c'est des méthodes totalement innovantes que vous ne connaissez pas. Donc il y a des moyens concrets, oui. Absolument, absolument. Moi, je dis qu'il faut un prisme qui prend un problème épineux et qui diffracte les problèmes simples, compliqués, complexes. Et bon, la méthode, moi, je vous en donne le nom et je vais voir si j'y arriverai à vous la décrire, ça s'appelle la méthode patte miroir, qui permet pour peur, attrait, tentation en miroir. On va essayer d'avancer un petit peu. Oui.
Vous avez dit que le problème, ça vient des ingénieurs, des experts. Oui. Moi, je ne viendrai pas sur ça. Je dirais que simplement, c'est le problème du management en général qui, si le manager ou le responsable de la réunion ne cadre pas et leur dit on a plusieurs problèmes, on va prendre des solutions. Si le responsable de la réunion, c'est lui, il ne voit pas la vision globale, c'est à cause de lui. On n'a pas la bonne solution. C'est pas à cause des experts. Eux, ils sont là pour donner leur avis.
Les experts croient, alors on va y venir, que les solutions expertes sont additives. On va y venir tout de suite. Et le manager croit aussi cela. Mais le manager, qu'est-ce que c'est? C'est un ingénieur en deuxième partie de carrière. Hein. C'est ça le manager. Hein. Donc, il est conseillé par des gens qui lui disent, mais moi j'ai la solution à ton problème complexe. J'ai la solution. Je l'ai appliquée ailleurs. Je sais. On fait une fusion de deux entreprises. J'ai fait le système de gestion d'information, il y en avait un dans l'entreprise A, un autre dans l'entreprise B. J'ai moi-même fait un système qui intègre deux systèmes d'information, je sais le faire. Mais les problèmes humains que pose la réunion de deux entreprises, ça, je les laisse aux responsables de ressources humaines. J'extrais un problème technique. Je sais le faire. C'est vrai qu'il sait le faire. Mais seulement personne n'a appliqué sa solution. Vous comprenez comment on extrait un problème. Et donc, c'est bien les ingénieurs et ceux qui sont devenus patrons qui doivent acquérir cette compétence, cette culture de la complexité. C'est un changement de paradigme. C'est un changement de façon de raisonner.
Alors, on va voir justement des choses plus concrètes. Là, je suis au niveau...
Par exemple, les problèmes économiques, sociétales, écologiques et techniques. Si je crois que je vais trouver une solution optimale aux problèmes économiques de mon entreprise, si je crois qu'en ajoutant des petites solutions sociétales, et si je crois qu'en ayant un petit département ou une personne qui s'occupe de l'écologie toute seule dans son coin, et si je crois que j'ai mon ingénieur technique qui sait bien résoudre les problèmes techniques de production de ma ligne de production, et si c'est tout ça, ben ça y est, j'ai résolu mon problème. Pas du tout. Pas du tout. Bon, ça, je l'ai déjà fait, ça, donc je passe. Le problème fondamental, c'est le théorème de Bellman. Est-ce que l'un d'entre vous a déjà entendu ce théorème? C'est un théorème capital qu'on devrait enseigner en première année de toute étude d'ingénieur, et qu'on ne vous enseigne pas. Il est très complexe, je l'ai simplifié pour qu'il soit facile à comprendre. Lorsque les parties d'un système sont interdépendantes, l'addition des solutions optimales pour chaque partie n'est pas optimale pour le tout. Alors ça, c'est un théorème capital et absolument utile en situation complexe. C'est-à-dire que si vous dites « j'ai un problème économique, j'ai un problème technique, j'ai un problème sociétal, j'ai un problème écologique » et que je trouve les solutions optimales, alors le financier, il optimise les investissements en fonction du payback, le DRH optimise l'organisation des ressources humaines, la direction développement durable, lorsqu'elle existe, optimise l'impact sur l'environnement, et la direction technique optimise ses choix dans le cadre du budget alloué, c'est comme ça qu'est gérée une entreprise. Eh bien, l'ensemble de ces solutions optimales n'est pas optimal pour le tout. Ça, est-ce que vous pouvez le comprendre? Si vous avez compris ça, mais c'est incroyable ce que ça change. Alors, vous n'allez pas bien vous faire revoir dans les entreprises, hein, parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. C'est comme ça que ça fonctionne. Mais si vous n'en êtes pas conscient, qui sera? C'est vous qui, dans les entreprises, allez faire passer ces nouvelles idées. Cette façon de procéder est anti-scientifique et constitue une réduction illégitime de la complexité. C'est une réduction de la complexité, elle est illégitime, parce que ces problèmes sont interdépendants. Le problème économique, le problème sociétal, le problème écologique et le problème technique sont interdépendants. Et je ne peux pas trouver la solution optimale à chacune de ces parties. Je vais vous donner un exemple frappant. Nous sommes à la Coupe Davis, entre la France et l'Australie, le soir du vendredi. Nous sommes à un partout, et il va y avoir le double qui va être décisif. Le responsable, l'entraîneur de l'équipe de tennis australienne a deux solutions. Il sait qu'il va avoir en face de lui Santoro et Yodra, qui sont respectivement 35e mondial et 85e mondial, mais deuxième paire en double. Et le responsable de l'équipe australienne a dans ses cartons Hewitt, qui était à ce moment-là numéro 1 mondial, et Rafter numéro 6 mondial. Ou Woodford-Woodbridge, paire numéro 1 mondial. Et il a passé sa vie à se dire, est-ce que je mets la paire numéro 1 mondial devant la paire numéro 2? Il y a peu d'écart hein, entre les deux. Hein. Ou est-ce que je mets le numéro 1 et le numéro 6 contre le numéro 35 et le numéro 85? Il a conclu qu'il allait mettre Hewitt Rafter contre Santoro Yodra. Et nous avons gagné la Coupe Davis. Pourquoi? Parce qu'il a cru que l'expertise était additive. J'espère que ça vous... C'est un exemple frappant. Hein, un exemple frappant. Moi, j'ai vécu ça et j'ai trouvé ça extrêmement clair. Dans les motivations des entreprises pour s'engager dans le développement durable, il faut mettre en avance deux choses. Il vaut mieux se savoir en danger que se croire en sécurité. ça veut dire qu'il faut faire l'analyse des risques. Et deuxièmement, il faut, dans une situation complexe, saisir les opportunités. Tout n'est pas prévisible dans un système complexe. Une des caractéristiques des systèmes complexes, c'est qu'il y a de l'imprévisible. Alors là, il y a un paradoxe. J'ai contribué moi-même à la constitution de l'Association européenne pour la modélisation de la complexité. Or, une des définitions de la complexité, c'est qu'on ne peut pas trouver un modèle unique. Alors, on dit, mais ils sont complètement fous, ces gens qui promeuvent la complexité et qui promeuvent la modélisation des systèmes complexes. Eh bien, c'est pourquoi ? C'est parce que quand on est dans un système où on sait qu'il va émerger de l'imprévisible, il est absolument nécessaire d'essayer de tout prévoir. On sait qu'on n'y arrivera pas. Ce qu'on va prévoir, c'est les tendances lourdes. Vous savez, pour prévoir, pour faire la prospective, il y a deux choses, il y a les signaux faibles et les tendances lourdes. Les tendances lourdes, on sait qu'il n'y a plus de bande magnétique, maintenant on est à l'âge du CD, du DVD, et puis maintenant bientôt du Blu-ray, et il ne faut pas être grand clair pour savoir la chute des ventes de cassettes, etc., pour voir l'augmentation. Donc, ça, c'est les tendances lourdes. Mais il y a des signaux faibles. Comment va-t-on détecter les signaux faibles ? Eh bien, en construisant un modèle de la complexité avec les tendances lourdes, qui vont permettre d'anticiper, de prévoir l'avenir. Et comme l'avenir ne se passe pas comme j'ai prévu, je vais pouvoir détecter les signaux faibles. Ce que justement je n'aurais pas prévu. Donc pourquoi faut-il modéliser les systèmes complexes ? Et c'est même la seule façon de les gérer correctement. C'est de prévoir tout ce qu'on peut prévoir et d'être attentif aux signaux faibles qui me signalent qu'il y a des choses que je n'avais pas prévues, et ils sont capitales, ils sont fondamentales à prendre en compte. Est-ce que vous voyez comment on résout cet apparent paradoxe ? Alors j'avance un tout petit peu, parce que j'ai quand même des idées très fortes. Bon, on va sauter ici. On saute ça. Les systèmes complexes ont quatre caractéristiques. Il y a émergence d'imprévus, favorables et défavorables. Alors, le problème, les éléments favorables, c'est les innovations techniques et organisationnelles. Et les événements défavorables, c'est les conflits, les accidents, les catastrophes, les effets pervers. Hein? On veut améliorer l'écologie en supprimant le DDT et on remplace ça par d'autres agents éliminant les mauvaises herbes qui sont bien pires que le DDT. Donc on a voulu améliorer la situation, puis il y a un effet pervers. On n'avait pas pensé, ça fait le contraire de ce qu'on avait dit. Et pourquoi la complexité a mauvaise presse ? C'est quand il arrive un événement imprévu favorable, le responsable dit c'est à cause de moi, oui, j'ai bien géré mon affaire. Et quand c'est défavorable, on dit c'était trop complexe, je ne pouvais pas y arriver. Non, la complexité c'est notre avenir. Tout ce qui est simple est fait, tout ce qui est compliqué, il y a des experts. L'avenir, c'est dans la solution des problèmes complexes. Il y a la présence de dialogiques qui entraînent des dilemmes. Qu'est-ce que c'est qu'une dialogique ? C'est quand il y a deux logiques ago-antagonistes qui sont complémentaires et antagonistes. La logique de l'ordre et la logique de l'organisation. Qu'est-ce qui va émerger du choc de ces deux logiques ? C'est l'organisation. Il y a l'ordre et le désordre et émerge l'organisation ou la désorganisation. Oui. Deux logiques qui s'affrontent. L'innovation est toujours à la frontière de l'ordre et du désordre. La vie est à la frontière de l'ordre et du désordre. C'est une réponse à cette frontière de l'ordre et du désordre. Et les dialogiques, elles engendrent localement des dilemmes. Des dilemmes, c'est un moment où je ne sais pas quoi choisir entre plusieurs possibilités. Parce que justement, je vous donne un exemple. Dans tous les travaux de recherche qu'on fait entre l'université et l'industrie, nous sommes pris dans la dialogique secret éducation. Pour l'industriel, il veut absolument garder secret les accords de recherche qu'il passe avec l'université pour avoir un avantage concurrentiel. Et pour les universitaires, qu'est-ce qu'ils veulent ? C'est publier pour pouvoir avoir une carrière qui monte. Alors, on est pris dans cette dialogique secret-divulgation. Et ça va créer beaucoup de dilemmes. Qu'est-ce qu'on va écrire dans le contrat ? Est-ce que je vais tout dire à l'industriel de mes recherches quand il me demande de coopérer sur une seule de mes recherches ? Qu'est-ce qu'on va écrire dans le contrat ? Comment je vais pouvoir publier ? Il va falloir qu'on fasse de la godille et que localement, on trouve une solution très précise à ce problème secret divulgation. Et l'industriel va découvrir qu'il a intérêt à une certaine divulgation et l'universitaire va découvrir qu'il a intérêt à un certain secret. Et au lieu d'avoir deux logiques qui paraissent l'un soutenu par l'industrie et l'autre soutenu par le chercheur, on va s'apercevoir qu'ils ont à s'entreprendre à gérer la dialogique secret-divulgation. Et c'est d'ailleurs ça qui crée la confiance entre l'industriel et le chercheur. Il y a des boucles de retour et de la récursivité. Je n'ai pas le temps de rentrer trop là-dedans. La boucle de retour, c'est tenir compte de l'effet que j'ai obtenu par rapport à l'effet désiré pour adapter mon action. C'est ça la boucle de retour. La récursivité, c'est autre chose. C'est quand je suis en relation, moi je suis une entité A, je suis en relation avec une entité B. À la fois A est produit l'entité B, mais elle est produite par l'entité B. Et l'entité B, à la fois, elle produit l'entité A, elle est produite par l'entité A. C'est-à-dire que je suis à la fois source et puits. Je suis à la fois producteur et produit. Exemple. Je veux agir. Pour agir, il me faut de l'information. Il faut que cette information ait construit une représentation du monde. Et je vais agir conformément à ma représentation du monde, de manière satisfaisante, alors optimale pour ceux qui sont encore dans le paradigme de la complication, mais satisfaisante si je suis dans le paradigme de la complexité. Donc, mon action dépend de mon information et de ma représentation du monde. Mais une fois que j'ai agi, je génère de l'information, et cette information va me faire améliorer ma représentation du monde. Vous voyez que l'action produit de l'information et produit une représentation du monde. Ce qui peut faire que je peux dire une autre chose, c'est Je construis des représentations du monde qui tiennent compte de mon action. De même que mon action est produite en m'appuyant sur ma représentation du monde. Vous voyez, c'est ça la récursivité. Est-ce que c'est clair la différence entre récursivité et boucle de retour? C'est pas des notions faciles, hein, mais c'est important. Et enfin, le principe hologrammatique de la relation du tout et des parties. Alors vous avez tous entendu le tout est plus que la somme des parties. Edgar Morin dit, la partie, c'est plus que la division du tout. Alors, un petit exemple. Ce qui est capital dans un projet complexe, c'est la façon dont on va découper le projet en parties. Le financier va découper le parti en grands blocs de dépenses d'investissement et dépenses de fonctionnement. Le responsable de la production, il va regarder les machines, il va regarder les différentes machines qu'il doit gérer. Voilà. Chacun découpe le projet à sa façon. Et quand on ne parle pas de la même chose parce qu'on a fait des découpages différents. Une équipe hologrammatique, c'est une équipe qui s'est mise d'accord sur le découpage d'un projet en partie et où tout le monde a la même découpage. C'est ça, l'hologramme. L'hologramme, c'est les parties ont une même représentation du tout.
Il faut malheureusement...
Oui, mais je conclue. J'ai juste une chose à vous montrer. Les dialogiques qui sont à l'œuvre dans le développement durable...
Sinon, on interdit le dialogue.
Non, mais d'accord. Juste simplement pour faire le lien entre ce que je viens de dire et le développement durable, et j'aurais pas du tout parlé de la méthode patinoire, tant pis. Et voilà les dialogiques qui sont à l'œuvre. Le court terme est contre le long terme. Il y a des arguments et des critères pour le long terme, il y a des critères pour le court terme. Il y a ces deux logiques s'affrontent. Et il y a des solutions innovantes qui viennent lorsque je tiens compte et du court terme et du long terme. Il y a le global et le local. Vous savez, il y avait le vieux slogan d'attaque complètement dépassé qui était penser global, agir local. Faux. Penser et agir local, penser et agir global. Le simple et le complexe, vous avez vu, avec le compliqué qui est au milieu. La compétition ou la coopération. Il faut recréer des conditions de la coopération dans les entreprises, coopération entre les experts, coopération entre toutes les parties concernées et intéressées, sinon vous n'arriverez pas à gérer le complexe, et le développement durable, c'est du complexe. Je vous remercie. Je vous signale le livre « La dynamique de la confiance » ou « Construire la coopération dans les systèmes complexes » qui est la méthodologie adaptée à la gestion des systèmes complexes que nous avons écrit avec Jean-François Guyonnet et Bruno Kouzoulouk. Voilà. Merci. Alors, on va entamer un dialogue.
J'ai créé une entreprise d'éco-construction. Donc, je quitte l'UTC en fait ce semestre, c'était mon dernier semestre, pour être à temps plein ensuite dans l'entreprise d'éco-construction. Alors, on va faire une image. Donc, j'ai fait un petit peu quasiment la même chose l'année dernière, sauf que c'était un an avant de créer l'entreprise, donc on était en phase de réflexion sur comment on avait créé notre entreprise. Et là, on dépose donc les statuts en avril, donc le projet est quand même beaucoup plus abouti. Et je m'associe à un collègue qui est déjà artisan, et donc avec qui on travaille déjà presque comme si c'était de la future entreprise. Donc ça nous permet d'avoir quand même un certain nombre d'expériences qui nous ont permis justement de réfléchir à ce qu'on voulait faire.
Là, c'est PC2 et il est PC.
Donc, je vais aborder deux parties. Une première partie qui concernera l'éco-construction pour balayer de façon assez générale ce qu'on entend par éco-construction. Et puis, une deuxième partie qui sera plus appliquée au projet de création d'entreprise. Et donc on abordera justement quels sont les problèmes et éventuellement solutions qu'on peut trouver pour concilier justement l'écologique, l'économique et le social. À parler pendant que ça se rouvre, parce que sinon on va prendre un peu de retard. Donc le but de l'entreprise, c'est de faire de la construction écologique en essayant d'intégrer dans la notion d'écologique le maximum de paramètres. Aussi bien en termes de fonctionnement que en termes de matériaux et de mise en œuvre. Décidément. J'essaye de basculer encore une fois. Sans diaporama, simplement sur le logiciel directement. Je l'ai là, mais... Non, normalement, non.
Bon, on est sur le mien, non.
Et non, mais sinon, je vais le faire. Sinon, je vais le laisser en diaporama. C'est comme ça, c'est pas grave, vous arrivez à dire pareil. Hein. Alors, ouais. Voilà.
Bon, faire comme ça. J'arrive à faire un peu parce que sinon je vais pas rien dire.
Alors, donc j'ai choisi cette première illustration pour aborder la notion d'éco-construction. Vous voyez un igloo, vous connaissez tous. En quoi l'igloo est, enfin, pour moi, c'est la construction la plus écologique. Pourquoi ? Parce que c'est fait avec un matériau, alors si on parle du matériau déjà, donc c'est fait avec un matériau qui est absolument local, parce que le déplacement est d'environ quelques mètres. C'est un matériau qui n'a demandé aucune énergie pour être produit, puisque c'est un matériau qui est naturellement présent sur le site. Donc il n'a subi ni cuisson, ni transformation particulière. C'est un matériau qui est à la fois porteur et isolant, donc il assure deux fonctions à la fois, et qui en plus a une excellente inertie thermique, ce qui permet de limiter les variations de température intérieure de la construction. Donc on a affaire à un seul matériau, un seul et unique matériau qui permet d'avoir une construction qui est absolument performante pour la mise en œuvre qui est faite, puisqu'elle permet d'assurer jusqu'à 20 degrés de différence entre l'intérieur, ce qui est un tout à fait raisonnable, qui permet donc dans ces conditions extrêmes d'avoir des températures entre 0 et moins 10 à l'intérieur, alors qu'elles peuvent être justement à 40. L'extérieur. D'un point de vue construction, on a une construction qui est très performante parce que l'enveloppe a été, la surface de l'enveloppe, donc la surface de déverdissement a été complètement limitée puisque on est dans une enveloppe hémisphérique, donc c'est ce qui permet d'avoir le maximum de volume pour la performance importante. Et l'orientation de la construction est faite dos au vent et donc ça permet de se protéger des intempéries, des entrées de neige, etc. Donc l'igloo en soi, c'est vraiment une optimisation de tout d'un point de vue matériau, parce qu'on a associé des dimensions structurelles, isolantes, dimensives, et d'un point de vue construction, parce qu'on a optimisé complètement la forme, de façon à ce que la construction en elle-même, sans y ajouter d'autres appareils, donc de chauffage et de refroidissement, c'est pas nécessaire en général, d'étanchéité ou autre, le bâtiment en soi fonctionne en relativement qui permet d'avoir un confort tout à fait raisonnable pour les conditions extrêmes dans lesquelles il est construit. Donc ça résume un petit peu l'idée de l'éco-construction que nous en tout cas on met en avant, c'est qu'on travaille à la fois sur les matériaux et sur la conception de façon à avoir des bâtiments qui sont les moins énergivores à la construction mais aussi pendant leur fonctionnement. Alors comment travailler sur la limitation de la consommation d'énergie pendant le fonctionnement, c'est ce qu'on appelle le bioclimatisme. Donc là, c'est quelques règles, je ne peux pas tout aborder, mais c'est vraiment pour vous donner quelques notions principales, fondamentales. Globalement, un bâtiment bien conçu doit pouvoir se passer de tout système supplémentaire de chauffage ou de refroidissement. Parce que les matériaux de construction possèdent des caractéristiques et si on les emploie correctement aux bons endroits et qu'on favorise en plus l'apport des énergies qui sont gratuites, donc notamment essentiellement le soleil, on doit pouvoir faire des bâtiments qui fonctionnent à moindre coût d'énergie. Donc la stratégie du chaud, eh bien c'est, donc dans les stratégies du chaud, donc c'est pour chauffer le bâtiment, hein. Dans les pays froids ou tempérés comme la France par exemple, c'est de capter le soleil et de le stocker. Et puis la nuit, quand il n'y a plus de soleil, eh bien, de pouvoir le conserver et le distribuer pour assurer un confort optimal pendant toute la journée, la journée, y compris la nuit. Donc capter, c'est évidemment en s'orientant le maximum au sud, en ayant le maximum de vitrage au sud. Stocker, c'est en ayant des masses qui présentent une forte inertie thermique qui sont directement soumises au rayonnement solaire. Et donc, capter la chaleur du soleil pendant la journée et la restituer pendant la nuit, et conserver, donc c'est évidemment le captage, mais c'est aussi avoir une excellente isolation. Donc ça, l'isolation, c'est vraiment le point sur lequel tout le monde met l'accent ces derniers temps, depuis plusieurs années, avec des incitations fiscales, etc. Mais ça n'est qu'un élément
qui permet d'optimiser le fonctionnement énergétique d'un bâtiment. Pour l'instant, on optimise l'isolation, simplement parce que les bâtiments sont, enfin, en tout cas sur le bâti existant, toutes les aides, elles vont essentiellement dans le sens de l'isolation. Et puis de l'installation d'énergie renouvelable, mais ça c'est un autre point. Mais dans le sens de, elles vont essentiellement dans le sens de l'isolation parce que bah, le captage, on ne peut finalement pas y faire grand-chose, à moins d'installer des capteurs solaires. Donc ça, c'est l'autre point de la production d'énergie. Le stockage, on ne peut pas vraiment changer les matériaux du bâti. La distribution, en général, ce n'est pas les points les plus importants en termes de dégâts d'émission. Et on a déjà des appareils qui permettent d'apporter de la chaleur à l'intérieur du bâtiment. Donc c'est le stockage, c'est la conservation, donc l'isolation qui sera le plus important. Ça, c'est une vie froide, c'est le contraire. Eh bien, c'est se couper au maximum du rayonnement solaire. Donc, soit protéger par des bords de toiture ou autres l'entrée du soleil, soit dans les pays vraiment chauds, tourner complètement au soleil et avoir des murs complètement fermés, en tout cas du côté du soleil. Ça ne veut pas dire forcément fermer au sud, puisque dans l'hémisphère sud, c'est le contraire, et puis même à la limite, ce n'est pas toujours le meilleur endroit pour se protéger. Favoriser au maximum la ventilation. Donc il y a des systèmes solaires, cheminées solaires et autres dans les pays orientaux qui sont mis en œuvre depuis des milliers d'années et qui fonctionnent très bien. Faciliter éventuellement le refroidissement simplement par l'évaporation d'eau. Et puis avoir aussi une inertie thermique très importante de façon à emmagasiner la chaleur du soleil pour qu'elle chauffe les matériaux plutôt que de chauffer l'air. Donc c'est pour ça qu'en général dans les pays chauds, vous avez souvent des constructions en pierre ou en marbre, que ces deux matériaux absorbent la chaleur et ça évite à l'air de se surchauffer. Il faut évidemment ventiler pendant la nuit de façon à ce que ces matériaux refroidissent et ne chauffent pas le bâtiment pendant la nuit. Voilà, donc ça c'est quelques points sur la conception bioclimatique et qui permettent donc de favoriser un fonctionnement à moindre coût énergétique.